www.franceinter.com.
Werner Herzog,
Charles Gore,
Günter Grass,
Nawal Al-Sa'daoui,
Joel Cohen,
Tony Mars,
Ivan Dele,
Cosmopolite. Cosmopolitan.
My name is David Locke.
Mathis Condé.
Patricia Athra.
Cosmopolitan.
Rosetta Loy.
Thomas Goyan.
Robert Littell. Et je suis l'invité de Cosmopolitan.
Paula Jacques.
En complicité avec Pascal Rose pour la littérature et Christine Haas pour le cinéma. Anne Sécheret réalise Cosmopolitan.
Paraphrasant le poète, je pourrais dire que j'aimais déjà les animaux quand j'étais un petit enfant. Marc Kravets, avec ses belles histoires animalières, celles de l'iguane rose, de la chèvre voleuse ou encore de l'éléphant toxicomane, le grand journaliste et reporter brosse également le portrait de l'Homo sapiens, une espèce plus redoutable et moins singulière qu'elle ne voudrait le faire accroire. Portrait d'animaux, 50 histoires pour un bestiaire, vient de paraître aux éditions du Sonneur et Marc Kravets est le premier invité de cette cosmopolitaine. On ne traverse pas tant de pays pour entendre une histoire. Où va la Parisienne à travers la prairie ? Comme on va à l'herbe ? Vénus Kourigata, la romancière et poétesse d'origine libanaise, nous conte le périlleux périple de Anne, qui, voulant récupérer le dernier manuscrit d'un grand écrivain disparu, se retrouve être l'esclave consentante de deux sœurs. Deux sœurs qui partagent le même veuvage et se disputent le même défunt. La fille qui marchait dans le désert, roman sensuel, paraît au Mercure de France et Vénus Kourigata est la deuxième invitée de cette cosmopolitaine. Marc Kravets vient nous parler de votre dernier ouvrage, Portrait d'animaux, qui paraît aux éditions du Sonneur en collaboration avec France Culture. Mais je vais d'abord dire bonjour à ces dames. Avant d'entrer dans le vif de ces 50 histoires pour un bestiaire, bonjour Vénus Kourigata.
Bonjour.
On est très heureux, Pascal Rose et moi, de vous accueillir pour votre dernier roman. Bonjour ma chère Pascal.
Bonjour chère Paula.
Alors écoutez bien toutes les deux si vous aimez également les animaux depuis que vous êtes toute petite, comme le poète. Ce qui est mon cas, Marc Kravets, je disais que vous étiez un grand journaliste, grand reporter. Vous avez depuis 1975 couvert à peu près tous les conflits à travers le monde, au Proche et au Moyen-Orient. Et vous, d'ailleurs, vous avez reçu le prix Albert Londres en 1980 pour une série de reportages en Iran. Marc Kravets, là, c'est une activité un peu plus casanière que ces portraits d'animaux, 50 histoires pour un bestiaire. Vous êtes depuis un certain temps, depuis 2003, je crois, chroniqueur dans les éditions...
2004,
dans les émissions de France Culture, les matins de France Culture, où vous donniez un billet quotidien, des histoires de genre, en général, à travers le monde. Mais là, ce sont des histoires d'animaux, et vous en avez eu l'idée, la suite d'une panne, un vendredi soir, panique, pas d'hommes, pas d'humains à se mettre sous la dent. Vous composez donc cette première histoire, celle du panda. Alors, c'est bien de commencer par le panda, parce que pour lui, on a tout de suite un facteur d'attendrissement, comme vous le dites, pour le panda. Et ensuite vont suivre donc tous les vendredis, toutes ces histoires. Nous allons, si vous voulez bien, Marc Kravets, commencer par la Chine, qui est à l'honneur, avec son exposition universelle. Et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, d'animaux que vous empruntez à la Chine. Alors, il y a notamment celle du panda, ce fameux panda qu'on adore.
Le panda géant.
Le panda géant, dont vous nous révélez tristement qu'il a une sexualité assez molle, pour ne pas dire inexistante.
Une libido au point de congélation.
Et ça ne tient pas à la captivité.
Non. Enfin, pour ce qu'on en sait, parce qu'on sait très peu de choses, en fait, à son sujet.
Sur le panda. Si,
on en sait plus maintenant, mais c'est récent. Ça fait quoi, une trentaine d'années qu'on l'a étudié. Mais d'abord, je voulais vous dire bonjour et vous remercier de votre invitation. Je suis par ailleurs ravi de me trouver à la même table que Vénus Kourigata, qui est des poètes qui m'a fait rêver depuis longtemps dans ma vie libanaise, qui est une autre vie. Donc bonjour Pascal et bonjour Paula. Oui, le panda est une... En gros, c'est une espèce qui était évidemment connue en Chine, qui a été mise au jour par l'un des prédateurs principaux d'ailleurs de la faune chinoise, qui était un, je vais te dire une bêtise, je ne sais plus, c'est un jésuite ou un dominicain français, le père David,
d'accord.
Qui a donné son nom d'ailleurs à toute une série d'espèces qu'il a plus ou moins récupérées, alors c'est en gros au milieu du 19e siècle.
Hein. Alors Davido, Davidette, Davidienne
Non, c'est David tout court, alors il y a l'ours du père David, le tigre du père David, le lion du père David, le loup du père David, tout ça qu'on voyait au musée de l'armée. Donc l'ours du père David en l'occurrence s'est avéré être le panda dont on a longtemps considéré qu'il était un ours. Puis ensuite, on l'a un peu regardé de plus près, puis on l'a déclassé. Alors, il n'était plus tout à fait un ours. Les Chinois, d'ailleurs, n'aurais pas l'impudence de prononcer son nom en chinois, mais enfin, les Chinois l'appellent l'ours-chat. Et en fait, il est plus du côté du chat, mais alors au sens très large, que du côté de l'ours. Et c'est pour ça que finalement, il a récupéré ce nom de panda, d'où panda géant, parce que l'espèce la plus proche de lui est un très bel animal, par ailleurs, malheureusement, qui souffre de la proximité de l'autre, qui s'appelle le panda roux.
Qui lui n'est pas en voie de disparition, qui n'est pas menacé.
Qui n'est pas si bien traité que ça. Ils ont en commun d'ailleurs le panda géant. Donc le panda géant, c'est évidemment le nounours noir et blanc que tout le monde connaît, l'emblème mondial maintenant des espèces en voie de disparition. Le panda roux, qui ne se porte pas si bien que ça. Donc c'est il a une tête de renard et une queue d'écureuil, le tout en un peu plus gros. Donc il vit essentiellement au Népal. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est leur goût quasi exclusif pour le bambou.
Qui est en voie de disparition d'ailleurs, avec la déforestation.
Alors il y a la déforestation d'une part, mais d'autre part, alors c'est surtout vrai pour le panda géant, il a tout fait à l'envers. C'est-à-dire, si Darwin s'était cherché comme ça un ennemi pour le démentir de bout en bout, il aurait trouvé le panda géant, qui a sélectionné sa nourriture de telle manière qu'il en est de moins en moins, dont le mode de reproduction, vous le disiez tout à l'heure, est à peu près celui d'un caillou. Et qui malgré tout, comme ça, arrive peu à peu jusqu'à nous. Alors évidemment, c'est très héroïque, ça lui donne son statut un peu particulier.
Marc Cravette, alors pour rester encore un peu en Chine, j'adore l'histoire, par exemple, de Zhu Jianqiang, le cochon de l'année. Alors ça commence très mal pour lui, il y a un incendie terrible. Et
un tremblement de terre.
Et un tremblement de terre.
Le fameux tremblement de terre de 2008.
Et extraordinaire, un cochon survit, on le retrouve dans les décombres, tout amaigri, il a survécu je ne sais combien de jours.
Ça se compte en semaines, c'est 4 ou 5 semaines je crois qu'il a vécu sous les décombres en effet.
Et alors, on le sort des décombres et on décrète que c'est un héros, puisqu'il a résisté au tremblement, qu'il a survécu, et qu'il faut le donner en exemple aux Chinois. Et à partir de là, on va le remettre sur pied, on va l'engraisser, et il va devenir un peu l'attraction préférée des visiteurs. Sauf que notre cochon a vraiment un caractère de cochon.
Absolument, oui.
Pourquoi ?
Il est vaniteux. Une fois qu'il est sorti, en gros, sa destinée, il faut bien dire, était tout de même de finir...
Manger.
Eh oui, tout est bon dans le cochon. Et donc, son sort héroïque, c'est-à-dire il est dans les décombres, il a réussi à survivre en mangeant du charbon de bois, si ma mémoire est bonne, et en lapant de l'eau qui suintait à travers les ruines, donc après le terrible tremblement de terre, qui par ailleurs a anéanti, il y a un point commun entre les deux, qui a anéanti la réserve du Wulong, où les Chinois protègent donc leur panda. Il est entre les deux. Et donc, il sort de là, on voit ce cochon tout amaigri, évidemment, il est fêté comme il se doit par son propriétaire, et par ailleurs, il n'a plus vraiment sa valeur marchande de cochon. Donc,
il est passé
de sa valeur d'usage pour parler comme dans l'ancien temps. On va lui trouver une valeur d'échange, une valeur symbolique extrêmement forte. C'est le héros du tremblement de terre. Il a résisté vaillamment, donc il est donné en exemple au peuple chinois. Nous triomphons des difficultés. Et donc, on lui aménage un enclos spécial dans un zoo spécial où on vient le visiter. Et alors, à partir de là... il a à peu près triplé de volume assez vite, d'ailleurs, il a très bien récupéré, mais il est évidemment protégé à vie, il ne sera jamais jambon.
Et il n'a pas été mangé jusqu'ici, vous en êtes sûr?
Ah, il ne le sera jamais.
Bon,
il ne le sera jamais, il faut quand même... il ne le sera jamais.
On se réjouit pour lui.
Oui, mais...
mais ça veut dire que finalement, toutes nos notions, nos rapports aux animaux sont vraiment quelque chose de très différent selon les nations, parce que je n'imagine pas que la France, par exemple, se dote d'un cochon comme emblème de la France...
Oui, bien le coq gaulois.
Alors précisément, les animaux emblématiques, je leur avais consacré une chronique il n'y a pas très longtemps. Le coq gaulois n'a jamais été inscrit dans les textes en France. Hein. C'est une tradition qui d'ailleurs est plutôt réservée à des équipes sportives. C'est pas... Alors qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des animaux emblématiques, c'est inscrit dans les textes fondamentaux, dans les préambules de constitution, sur les drapeaux. La France, en effet, n'y est pas. Et le cochon n'est pas non plus l'animal emblématique de la Chine, il faut bien dire.
C'était juste pour une année.
Alors, c'était l'année d'avant, en plus, l'année du cochon.
Oui, c'est ça.
Et l'année d'avant, en fait, comment ce cochon est devenu héros national ? D'une part, par ce que vous venez de raconter, donc il a survécu au décombre. Et d'autre part, il a été élu par une communauté d'internautes, et il avait succédé, d'ailleurs, à une truie qui avait elle-même élu l'année d'avant héroïne nationale. Alors elle, c'était pour autre chose. Le jour où on conduisait sa truie voisine chez le charcutier, elle s'est mise très en colère. Elle a blessé d'ailleurs assez sérieusement le charcutier. Et la révolte de cette truie en a fait l'héroïne nationale de l'année du cochon en Chine.
Donc là, cochon sur cochon pendant 2 années. Là, pour l'instant, ce sont des histoires exemplaires. On peut les raconter aux petits-enfants. Mais il y a des choses où l'on voit vraiment à ce moment-là la nuisance de la main de l'homme avec l'histoire de l'éléphant toxicomane. Racontez-nous cette histoire.
Ah, c'est aussi une histoire chinoise.
Absolument.
En l'occurrence. Alors, l'éléphant toxicomane, c'est... Alors, on va la faire courte parce que il appartient donc à la catégorie de l'éléphant d'Asie, qui est très sérieusement, en tout cas dans la nature, pratiquement pas tout à fait disparu, mais largement en voie de disparition. Il y a encore pas mal d'éléphants qui servent à des tâches serviles lourdes. Et en l'occurrence, il y a du trafic d'éléphants. Alors, bien sûr, pour les transports, pour tout ça, le 4x4, c'est un peu comme avec le chameau dont je raconte l'histoire par ailleurs. Les instruments mécaniques ont un peu remplacé, mais enfin, il y a des situations dans lesquelles l'éléphant est indispensable, au fond des forêts notamment. Et donc, il y a des trafiquants d'éléphants. Il est apparu dans ce cas de figure que des trafiquants d'éléphants avaient réussi à voler 5 éléphants, et qu'ils étaient en train de conduire donc depuis la Chine vers la Malaisie ou la Thaïlande. C'est
la Malaisie,
je crois, oui. Et ils se sont fait prendre sur la frontière par les gardes frontières chinois. 4 des 5 éléphants ne posaient aucun problème. Et le 5e éléphant, qui était d'ailleurs, le plus jeune d'ailleurs de la bande, avait montré des symptômes terribles. Il avait les yeux qui pleuraient, les pleurs d'éléphant, vous parliez des
Il ne planait pas alors, lui.
Non, il ne planait pas du tout. Non, il était
et non
plutôt
pas à
dans
cause
la...
de sa constitution.
Alors, on ne le savait pas encore. En fait, il était dans la phase la plus rude de l'intoxication, de l'addiction grave à l'héroïne. Et en réalité, les trafiquants l'avaient bourré d'héroïne en mettant de l'héroïne dans les bananes, et en lui donnant des bananes à haute dose, et il était, alors en effet, il était stoned, comme on dirait en anglais, enfin, à mort. Quoi.
On a réussi à le désintoxiquer.
Mais en de nombreuses années. Il a fallu plus de 3 ans pour, dans un centre de désintoxication pour éléphants, ce qui n'est quand même pas, avec des remèdes évidemment du même nom.
Alors, Marc Ravel, ce qui est très intéressant dans toutes ces histoires, d'abord, c'est très amusant et très passionnant, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ce sont des animaux assez exceptionnels, un individu assez exceptionnel, mais nous en apprenons beaucoup sur l'espèce. Mais surtout, nous apprenons que chaque histoire illustre un comportement d'Homo sapiens, en fait. Par exemple, si l'on prend l'histoire du Springbok. Alors, ça, c'est très intéressant. Le Springbok, je regarde mes notes, page 99... Page 99, le Springbok.
Qu'on traduit selon les cas par bouc gazelle.
Alors, c'est un
animal emblématique, justement.
Voilà, c'est une gazelle à poche dorsale, bouc sauteur. Et là encore, c'est devenu l'emblème de l'Afrique méridionale. Un emblème pour une nation. Laquelle et qu'est-ce qui s'est passé avec
Alors, maintenant, on en sait un peu plus, puisque le film a eu beaucoup de succès. Donc, le film Invictus, qui raconte l'histoire de l'équipe sud-africaine de rugby. Et ce geste absolument formidable de Nelson Mandela, donc devenu président de la République, et contre toute sa base, contre tous les Noirs d'Afrique du Sud, qui vient revêtir le maillot. Alors,
il faut dire que jusqu'ici, les équipes nationales de rugby n'intégraient aucun Noir.
Non seulement l'Afrique du Sud n'intégrait aucun Noir, mais surtout ne jouait contre aucune équipe qui avait intégré des Noirs, non, même pas des Noirs, des non-Blancs. Dans leur équipe, puisque pendant très longtemps, l'équipe nationale d'Afrique du Sud ne jouait pas contre ce qui passe pour la meilleure équipe du monde, qu'on appelle les All Blacks, mais les All Blacks, c'est à cause du maillot, c'est pas à cause de la couleur, qui est l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et donc, le Springbok, c'est-à-dire la gazelle sautante, la gazelle bondissante, donc le Springbok, c'est un mot d'africanaire, était l'emblème de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, équipe à 100% blanche, et qui était devenu, d'une certaine façon, l'emblème de, plus que de l'apartheid, l'emblème de l'exclusion des Noirs de ce qui était, au fond, l'un des symboles de l'Afrique du Sud, qui était son équipe de rugby. Et donc, à chaque fois, c'est très bien raconté dans le film, et c'est assez réaliste. Hein, c'est à peu
c'est
près
très bien raconté
ça.
Dans votre histoire aussi.
Donc oui, mais ça c'est gentil, mais pour le, je crois qu'il y a malheureusement pour le livre, mais heureusement pour l'histoire, plus de spectateurs du film. Tout le monde a donc bien vu que les Noirs, à cette époque-là, à chaque fois qu'il y avait un match de rugby de l'Afrique du Sud, pariaient, enfin manifestaient leur enthousiasme pour l'équipe adverse. Pour que surtout leur équipe soit battue parce que c'était insupportable. Et puis là-dessus, donc l'Afrique du Sud a été l'équipe sud-africaine était peu à peu boycottée avec son maillot, avec sa gazelle donc écrite dessus, était boycottée dans le monde entier, ne pouvait plus jouer, ne pouvait plus jouer au coin tournoi. Là-dessus, fin de l'apartheid, Nelson Mandela, on ne va pas raconter toute cette histoire, donc élu président de la nouvelle République sud-africaine, la République arc-en-ciel, et on arrive, et l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde de rugby. L'équipe d'Afrique du Sud, à ce moment-là, elle n'est quand même plus la meilleure du monde. À force, d'ailleurs, elle n'a plus joué de grand tournoi. Et puis, voilà, Nelson Mandela décide qu'il faut à tout prix réunir le pays autour de cette équipe. Et tant pis, s'il faut pour ça endosser le maillot vert et jaune, enfin, jaune, vert et or, on le dit, avec le Springbok dessus, et contre tous les Noirs, mais c'est très difficile à imposer, il revêt lui-même le maillot et se présente donc sur la pelouse. L'Afrique du Sud, peut-être, avec un peu l'aide de l'arbitrage, a gagné la Coupe du Monde cette année-là. Et le Springbok est redevenu l'emblème national après avoir été celui des Sol Blacks.
Alors ça, c'est une histoire édifiante. Il y a des histoires franchement désopilantes, comme celle de la chèvre, je crois que c'est au Nigeria.
C'est au Nigeria, oui.
Qui se retrouve emmenée au commissariat, parce qu'il y a des cambrioleurs de bagnole, et on trouve une chèvre. Alors, on pense que c'est une personne qui s'est changée en chèvre.
C'est ce que disent en tout cas les vigiles qui l'ont arrêtée. Oui.
Et on la met en cellule pendant 24 heures, ça agite tout le pays. Est-ce une personne devenue chèvre ou le contraire? Il y a aussi la merveilleuse histoire, celle-là je l'adore, de Santino, le chimpanzé qui vit dans un zoo. Assez triste, et lui, mais alors c'est très édifiant parce que vous racontez que las d'être l'objet d'attraction de ce zoo, il a décidé de s'en prémunir en lançant des cailloux aux gens qui viennent le regarder, et on s'est aperçu que ces cailloux, il les prépare longtemps à l'avance, quand il est seul, avant l'arrivée des visiteurs, il les met dans un coin, il les pose, et donc capable de se projeter dans l'avenir de ce qui va se passer, voilà. Au moment où on va ouvrir les grilles du zoo. Donc ça nous apprend beaucoup de choses finalement sur la conscience et l'évaluation de la durée, peut-être même de la mort par les animaux. Mais il y a aussi évidemment les animaux domestiques. Vous étendez beaucoup sur le chien de Obama. C'est très sympathique, mais je voudrais qu'on parle aussi de nos chers animaux domestiques. Et là, ça va intéresser Vénus Corrigata parce que le chat, l'histoire de Pepo le chat, pour ceux qui aiment les chats comme moi et comme Vénus Corrigata, c'est une très très grosse désillusion. Ces chats-là sont des manipulateurs, égoïstes et absolument dénués de sentiments. Parce que si vous croyez, Vénus, que le chat ronronne quand vous le caressez parce qu'il est content de vous voir, vous vous trompez. S'il ronronne, c'est pour vous réveiller le matin et que vous alliez à la pâtée. S'il ronronne ensuite, c'est pour vous expliquer qu'il est sur son territoire et qu'il faut lui ficher la paix. Bref, le ronronnement du chat, on découvre dans votre histoire, Marc Ravetz, qu'il y a 3 ou 4 modes d'expression.
Absolument.
Il y a plusieurs musiques au ronronnement.
Mais en fait,
qu'est-ce que je suis déçue.
Mais non, je suis sûr que vous ne découvrez rien. Mais simplement, comme nous sommes tous de mauvaise foi avec nos chats, Je me mets dans votre lot, hein. En l'occurrence, c'est en effet également une professeure du sexe féminin qui, mais enfin, n'importe qui vit avec un chat. Alors, s'il y a une famille autour, c'est un peu plus compliqué. Mais les gens qui sont seuls avec leur chat ont tous constaté à peu près la même chose, c'est qu'en général, vraiment, à l'heure de potrominer, d'ailleurs, l'expression en dit long. J'avais vérifié sur Claude Duneton, ça a à voir avec ce réveil matutinal. Bref. Alors qu'on aimerait bien dormir encore une demi-heure de plus, arrive le chat qui ronronne, qui se pousse contre vous, qui ronronne de mieux
mais
en mieux.
Quelle charmante petite bête, il m'aime, il m'aime.
Et alors que on ferait tout pour rester une demi-heure de plus au lit, que le réveil n'a peut-être même pas encore sonné, on finit malgré tout par se lever parce que c'est insupportable, et lui servir, en l'occurrence, ce qu'on veut, mettons ses croquettes. Et là-dessus, donc, une professeure, je crois qu'elle est une chercheuse britannique, qui est une grande spécialiste d'éthologie, enfin de comportement animal, et notamment du comportement vocal des animaux, s'est intéressée de près. Alors elle a réuni des gens comme nous, en fait, qui ont dit, voilà, vous avez tous cette expérience-là, racontez-nous comment. Et puis, ensuite, alors on a enregistré des ronronnements de chats dans plusieurs situations. Le ronronnement du chat qui réclame ses croquettes, le ronronnement, parce que le ronronnement, bon, ça on le savait depuis longtemps, hein, peut exprimer de la satisfaction comme il peut exprimer de la douleur. Les chats qui sont très mal ronronnent aussi. À peu près d'ailleurs tous les félins, il y a quelques exceptions, mais tous les félins. Et puis, ayant comparé tout ça, on a enregistré, et on a soumis ça à un panel assez large, genre de gens, certains avaient des chats, d'autres n'en avaient jamais eu, d'autres en avaient eu autrefois, etc. Donc, il y a des expériences diverses avec les chats. Et on s'est aperçu qu'en réalité, alors on a demandé aux gens de classer, avec des écouteurs, de classer les ronronnements dans ce qu'ils estimaient être les plus agréables à l'oreille, et ce qu'ils estimaient être les plus pressants à l'oreille, c'est-à-dire qui avaient l'air de leur réclamer quelque chose. Et, grosso modo, je vous la fais courte, ce qui était le plus pressant était le moins agréable à l'oreille. Donc c'est pas parce que c'est doux à l'oreille qu'on va lui céder, c'est parce qu'on ne peut pas y résister. Et là-dessus, on a soumis donc les mêmes enregistrements, alors cette fois à des machines, donc on est dans un studio, nos techniciens de la radio savent tout ça par cœur, des machines qui permettent de calculer les hauteurs de son, les nuances. Et on s'est aperçu que ce ronronnement du chat était très particulier, que c'était une sorte de trucage d'un miaulement. Le miaulement nous serait insupportable et on aurait tendance à le jeter. Donc, il ronronne parce que c'est plus doux à l'oreille des bipèdes, mais qu'en réalité, il est dans des fréquences qui sont très proches du cri d'un nourrisson qui a faim.
Donc, et c'est irrésistible, c'est un bébé. Alors, si vous cherchez d'autres histoires, je peux vous parler, par exemple, du chat autiste aux humains. J'ai un cas chez moi. C'est un chaton que j'ai recueilli qui a décidé que ma chienne, âgée de 12 ans à l'époque, allait être sa mère. Il l'a tétée depuis, il n'aime que ma chienne et il se fout complètement de ma pomme, sauf quand je lui donne à manger. Merci infiniment Marc Ravès pour ces très amusantes et très intéressantes 50 histoires pour un bestiaire, portrait d'animaux. On n'a pas parlé de l'iguane qui met en défaut la théorie de Darwin. On n'a pas parlé peau de lapin, peau de chagrin. Enfin, tout est amusant, passionnant. C'est paru aux éditions du Sonneur, en coédition avec France Culture. Merci beaucoup,
Marc Ravès. Pour nous rappeler qu'en fait, nous sommes des animaux comme les autres, avec une petite différence, mais nous sommes aussi les plus grands prédateurs.